Bonjour, nous nous retrouvons sur une spéciale lettre ouverte aux enfants de la République RIG. On se retrouve auprès de nos collègues de Radio Entre-deux-Mers. Nous sommes ravis d'être à l'Aréole au démarrage de la foire qui se passe à l'Aréole sur quelques jours jusque dimanche. Et donc on s'est déplacé. Alors l'équipe entière ne pouvait pas être avec nous puisque pris aussi par d'autres manifestations dans le Bordelais. Nous, nous sommes dans l'Entre-deux-Mers et nous en sommes ravis. Donc bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc voilà, donc on vous propose pour cette émission, on est sur une heure d'émission, nous sommes sur le 98.4. Nous vous proposons un petit focus sur l'Aréole justement. On s'est dit qu'effectivement cette manifestation qui accueille chaque année près de 50 000 personnes, alors qu'elle ne compte que 4173 habitants au dernier recensement, nous paraissait intéressant de faire un petit focus donc sur ce village ou cette commune. Donc il faut savoir que l'Aréole bénéficie du label national Ville d'Arts et d'Histoire depuis 2013, donc et qu'elle a depuis 2017 une fleur qui a été attribuée par le Conseil national des villes et villages fleuris. En effet, l'Aréole est un village fortifié avec énormément de patrimoine qui est de bon ton. Je vous y invite en tout cas pour venir justement vous balader, vous perdre dans ce village qui se trouve avec plusieurs bâtisses de certaines époques. Donc du coup, juste pour information, je vais vous en citer quelques-uns. Au niveau du patrimoine, il y a le prieuré, donc qui date du XVIIIe siècle. Nous avons également le château des Quatre Sauces, dit autrement des Quatre Sœurs, donc qui existe depuis le XIIe siècle. On a également l'église Saint-Pierre du XIIe siècle également. D'autres dans la même, on va dire dans le même siècle, on a l'ancien hôtel de ville ou ce qu'on appelle la vieille halle. Donc pourquoi la vieille halle ? Elle a été, d'après l'histoire, construite en tout cas sous la responsabilité ou impulsée par Richard Cœur de Lion. D'accord. Donc c'est pour vous dire que certaines personnalités, comme le prince noir, ont des bâtisses dans le coin et que du coup fait de cette commune de près de 4000 habitants un village incontournable de la Gironde et de l'Entre-deux-Mers. Il y a aussi également l'hôtel de Brié qui date du XVIIe siècle, l'arsenal ou la grande école, ce qu'on appelle la grande école qui date du XIIIe siècle. Alors la grande école, la petite histoire, c'est que les enfants de bourgeois allaient dans cet édifice pour recevoir bien évidemment l'instruction comme l'indique le principe de la grande école. Voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais en tout cas l'arsenal en lui-même ou la grande école mérite d'être visité. Il y a également bien évidemment les ruines des remparts qui ont commencé au XIIe siècle en termes de construction et s'est étalé jusqu'au XVe siècle. Donc il reste des ruines à visiter et qui, bien évidemment, reçoit toute l'attention des associations d'art et d'histoire afin que ces remparts puissent être visités. Voilà. Donc vous avez également le pont de Rouergue. C'est un pont suspendu de 170 mètres de travée sur la Garonne. Quant à lui, il a été construit en 1934. Donc on fait un petit bond jusqu'au XXe siècle. Tout ça pour vous dire, je suis pleine de passion pour ce village que je trouve extraordinairement accueillant et que tout bouillonne et que sur ces quelques jours, nous avons cette foire extraordinaire date de plus. Enfin, en tout cas, j'ai entendu à travers les différents stands que cette foire est connue depuis plus de 1000 ans. Voilà, donc ça, c'était le petit focus. Je vais vous inviter à une petite courte pause musicale. Donc, notre premier artiste sera Dennis Lloyd, Leftovers.
Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me, baby?
shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. See me drown. Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all.
Alors, c'était donc Dennis Lloyd, Leftovers. Donc, du coup, on reprend Lettre ouverte aux enfants de la République. Alors, ces cinq premières minutes, ont été assez rapides. Hein. Tout le monde me regardait avec des gros clignotants. Donc, effectivement, l'émotion de me retrouver avec les collègues de la radio Entre deux mers, l'environnement qui bouillonne et qui donne envie, justement, de participer à tout ce qui fait la richesse de cette foire sur ces quelques jours, mais également une passion pour le patrimoine et l'histoire, comme je le disais au début de l'émission. Donc on a été un petit peu fouillé dans l'histoire avec Pierre pour préparer cette émission, et on s'était dit, tiens, d'où vient, parce que chaque ville a une histoire, et on souhaitait savoir ce que voulait dire la Réole, d'où ça venait. Donc très simplement, en fait, on a lu que le nom de la commune vient du mot latin regula, qui signifie la règle au sens de la règle ecclésiastique de Saint-Benoît. Donc cette règle-là, elle était suivie par les moines bénédictins du prieuré Saint-Pierre. Donc on en parlait tout à l'heure, cette fameuse église du XIIe siècle qui surplombe la Garonne et qui abrite aujourd'hui l'administration, à savoir la mairie et la bibliothèque municipale. Donc effectivement, quand on dit qu'il surplombe, on voit bien que la ville a quelques dénivelés entre la Garonne et les hauteurs, où il y a plusieurs bâtiments patrimoniaux qui parsèment cette commune.
Effectivement, je pense que stratégiquement parlant, au Moyen-Âge, ça devait être une place assez forte, d'où effectivement toutes ces ruines finalement et remparts.
Voilà. Exactement, donc c'était une place forte puisqu'elle surplombait la Garonne, en sachant que la Garonne a été aussi un moyen pour les armateurs de faire passer les bateaux, les marchandises et notamment, alors je parle des armateurs, donc c'est au niveau des points hauts. On a encore des vestiges à Bordeaux également de points hauts. Il y a des bâtiments, notamment côté Bastide, qu'on peut voir, où il y a comme une petite maison posée sur un des bâtiments qui date du XVIIe, XVIIIe siècle et qui permettait aux responsables armateurs de vérifier et de voir si les bateaux passaient correctement, s'il n'y avait pas d'attaque ou de vol. parce qu'on peut aussi être attiré par la richesse d'autrui. Donc c'est intéressant de voir que ces points hauts étaient aussi des points stratégiques au Moyen-Âge pour la partie armée, finalement, de voir les ennemis arriver et de pouvoir organiser la défense. Donc ces remparts permettaient, comme dans chaque ville fortifiée, de pouvoir protéger les personnalités, et les villageois, généralement, qui étaient en extérieur, rentraient dans ces périmètres, voilà, exactement, dans ces périmètres pour être protégés. Donc ce village, cette commune a cette richesse patrimoniale avec plusieurs bâtiments dont j'en citais quelques-uns, mais ils sont bien au nombre d'une vingtaine qu'on peut découvrir sur cette commune qui a une superficie de 1250 hectares. Donc voilà, donc je voulais au moins vous dire ça et vous dire qu'en gascon, puisqu'on parle aussi le gascon, donc même si effectivement nous ne sommes pas loin de l'Occitanie, puisque ça fait partie aussi de ces territoires, on touche la Gascogne, et la Gascogne a donné aussi ce nom à l'aréole qui est le suivant, on dit l'aréoula. Voilà, pour le gascon. Comme ça, on aura fait un peu le tour de cette richesse-là. Sur la foire d'exposition, avant de passer à une autre thématique, on va vous emmener rêver. Nous revenons d'un séminaire nous avons été au Maroc, à Tanger, et Pierre a pu aller tester quelques petites spécialités locales. Donc avant de passer à ça, donc juste vous rappeler que cette exposition, cette foire, se déroule sur 4 jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Il y a plus de 130 exposants. Il y a 10 000 mètres d'exposition. Et c'est une foire qui est extrêmement connue puisqu'elle arrive juste après celle de Bordeaux. Donc pas moins de 30 000 à 50 000 visiteurs par an. Donc pour vous dire la place que ça prend. Voilà pour la partie l'aréole. Encore une fois, n'hésitez pas à venir. C'est jusqu'à dimanche. Venez faire coucou aussi aux radios, puisqu'on est sur le thème de la radio, des radiofolies. On va le dire comme ça, les radiofolies. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes sous le pavillon des exposants. Donc un beau bâtiment blanc. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer nos radios, et notamment la radio Entre deux mers. Vous serez bien accueillis. Voilà pour cette première partie donc dédiée. Entre-temps, on m'offre une soupe locale, donc je suis ravie. Donc pendant que je vais la déguster, je vais laisser Pierre nous parler un petit peu de son aventure testing au Maroc. Donc
oui, tout à fait.
Je rappellerai le contexte pour le séminaire, mais vous, pour la partie, on va dire plutôt test, qu'est-ce qui vous a charmé, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce que vous avez moins aimé? Donc c'est aussi intéressant puisque dans les exposants aussi, pour faire le lien, en venant rejoindre les collègues de la radio Entre deux mers, nous avons croisé des exposants qui avaient aussi des produits du Maghreb, hein, que ce soit alimentaire ou que ce soit des tapis ou de la décoration. Mmh. Et voilà, donc tous ces exposants amènent ce parfum d'exotisme. Donc à vous, Pierre.
Alors, en premier lieu, merci Sadia. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant au Maroc, ça a été ce petit choc culturel, mais aussi architectural, parce que en fait, il y a un sacré paradoxe là-bas. On peut avoir une superbe bâtisse à côté de maisons un peu en ruine, finalement. Pas un bâtiment ne se ressemble. Donc, en premier lieu, on est arrivé à Tanger. On a eu l'occasion d'explorer la ville de long en large. Historiquement, Tanger, en fait, c'est le port d'accueil des ferries qui traversent l'Espagne, en fait, enfin qui partent d'Espagne. Donc vous avez la possibilité, du coup, de venir en voiture en prenant le ferry en Espagne et en arrivant à Tanger. Donc ville côtière, effectivement, avec un beau port, un port aussi de loisirs. Et donc, comme toutes les villes plus ou moins marocaines...
Dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est sur les points hauts de Tanger, donc effectivement oui. une architecture assez éparse, mais en même temps très relative et typique du Maroc, avec des portes juste extraordinaires.
Oui, tout à fait.
Donc, fabriquées, travaillées, où on voit effectivement toute cette finesse, on va dire artisanale, hein, lorsqu'on les regarde. Et sur les hauteurs, en fait, quand on est sur les hauteurs de Tanger, quand on regarde la mer, on voit le point de jonction entre la mer Atlantique et la partie Méditerranée. Donc c'est assez fou parce que là-haut, vous voyez à gauche, on va essayer de vous transporter là-bas, mais quand on est sur ce point haut, qu'on fait face à la mer, on regarde à gauche, on voit les vagues, on voit qu'effectivement on est sur une mer agitée, on a l'Atlantique. Et quand on se tourne vers la droite, on voit cette mer calme qu'est la Méditerranée. Donc c'est assez intéressant aussi.
On n'a pas eu la chance de voir ça.
De voir ce contraste. Nous, quand on a fait la visite, effectivement, on s'est retrouvé sur le point le plus haut. Et je vous rejoins complètement sur l'architecture. Et en même temps, il y a cette particularité donc, qui est intéressante. Et autre point aussi intéressant sur les points hauts de Tanger, à l'époque de Matisse, d'ailleurs, la plupart des artistes de cette époque-là venaient à Tanger pour sa lumière, parce que vous parliez du lien avec l'Espagne, et même au-delà, puisque Tanger était une ville internationale. Vous avez aussi des quartiers, notamment la rue du Mexique. Vous aviez également un protectorat qui était installé au 18e, 19e siècle. Donc, du coup, qui a mené toute cette partie commerciale, puisqu'on parlait de la Garonne avec la Réole, il y a aussi ce principe de commerce et maritime, de transaction, toute la démarche effectivement maritime, donc est intéressante, puisqu'elle a amené aussi avec elle des artistes comme Matisse, à une époque où Matisse n'aimait peigner que sur les hauteurs de Tanger, puisqu'il paraît que la lumière y est juste extraordinaire pour un peintre. Donc beaucoup de peintres sont venus croquer ces morceaux de ville ou faire place à leur créativité. Pardon.
En venant s'imprégner effectivement des belles rues et des beaux endroits à Tanger. C'est vrai que ce côté-là, on le retrouve plus du côté Médina, sur les hauteurs un peu plus historiques de la ville, car la ville s'est quand même bien développée et on retrouve quand même un côté très occidental en fait sur une grande partie de la ville. Donc effectivement, toutes ces belles choses à voir sont plus du côté Médina. On retrouvera le côté ruelle un petit peu étroite, galerie marchande à tous les mètres carrés. Donc ça, c'est vrai que c'est appréciable. On est quand même bien imprégné dans le contexte, en fait, finalement. Et c'est vrai que c'est un dépaysement total, en fait.
Le souk, vous parliez de la Médina. Donc on est à l'entrée des marchés. Donc des marchés de toutes sortes, des marchés d'épices. On a beaucoup d'odeurs. Qui viennent chatouiller nos narines et qui sont juste une invitation à goûter, à pouvoir explorer aussi cet espace gustatif, et du coup qui viennent aussi rappeler les cuisines qu'on peut faire aussi en France, qui en France, on est quand même un pays avec une diversité gastronomique assez intéressante, et qui invite aussi à venir chatouiller ces espaces gustatifs. Donc pas mal d'odeurs, pas mal de couleurs. Donc vous parliez de ruelles, effectivement, dans la Médina, entre autres. Vous avez des petites ruelles, et à chaque fois que vous marchez dans ces ruelles, il y a des couleurs. Voilà, il y a vraiment ce qui explose au regard, ce sont les couleurs. Ouais. Les murs sont peints de jaune, qui vient côtoyer du bleu azur, des rouges, plusieurs types de rouges. Et puis un peuple assez accueillant, assez avenant, parfois aussi, parfois on va dire, avec nos têtes de touristes, peuvent se dire, tiens, allez, on va un peu les embêter.
Effectivement, donc, c'est vrai qu'il y a un rapport à l'économie complètement différent là-bas. Donc on a pu du coup s'en rendre compte, hein, complètement. Et c'est vrai qu'au début, ça commence toujours par une bonne démarche de vouloir aider. Et au final, après avoir aidé, la petite pièce, un petit écu de monnaie demandé. Donc après, voilà, c'est comme ça. J'ai envie de dire, on l'accepte ou on l'accepte pas. Ça fait partie aussi du choc culturel. Donc c'est intéressant de se confronter à ça parce que c'est pas du tout pareil en France. Donc autre chose qui diffère complètement, la route. En termes de conduite, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui ferait rêver le plus, mais si vous allez au Maroc, vous y serez confronté à un moment. Donc effectivement, là-bas, la conduite est assez sportive, mais par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas du tout de bouchons. C'est-à-dire que malgré une population forte de 2 millions d'habitants sur Tanger, nous n'avons pu voir aucun bouchon, en fait. Voilà, donc ça a été quand même assez rigolo.
Alors c'est intéressant parce que le rapport INSEE dit qu'il y a 900 000 habitants, ce qui crée pour nous, en termes de comparatif, l'agglomération bordelaise compte 750 000 habitants. Donc du coup, quand on a regardé avant de partir, on s'est dit, Tanger, ça doit être une ville, 25 000 habitants. Pas du tout, 900 et quelques mille. Et puis sur ces dernières années, ce que nous expliquaient les Tangérois et les Tangéroises, c'est qu'il y a eu un afflux en fait des personnes. Comme nous avons connu l'exode rural, on est exactement dans ce même système. C'est-à-dire qu'il y a un commerce assez florissant et il y a du développement. Du coup, ça attire comme dans toutes les villes chez nous. Hein. Paris s'est pas fait juste comme ça. Elle s'est fabriquée par les provinciaux
Rome ne s'est pas construite en un jour.
Oui, mais par cet exode rural qui fait que la capitale s'est retrouvée très vite augmenté en population. Donc Tanger vit la même chose en moins de 4 ans. C'est énormément de flux qui ont convergé vers cette ville-là qui est en plein développement.
Ouais.
Et donc du coup, on n'a pas les chiffres officiels, mais d'aucuns s'accordent à dire qu'ils sont passés à près de 2 millions d'habitants. Donc les sources, elles sont diversifiées. On n'a pas demandé qu'une seule personne. On a aussi demandé aux institutions. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir que cette ville devient presque une mégapole, quoi. Une mégapole, mais les infrastructures ne suivent pas. Puisqu'il n'y a qu'un hôpital public, il y a une clinique. Et très prochainement, il devrait y avoir aussi un hôpital universitaire.
D'accord, oui, c'est vrai que c'est peu en termes d'infrastructure quand on voit la population. Mais c'est vrai que ce que vous dites, oui, on a ce sentiment-là, parce qu'en se promenant au bord de la plage, on a plus l'impression d'être à Dubaï, voire à Miami, qu'au Maroc. Donc, pour les idées un peu arrêtées, donc au moins c'est bien comme ça, ça permet de casser un peu les clichés.
Le principe des clichés compte, avec la carte postale.
Exactement, oui.
La carte postale, effectivement.
Donc, et aller voir, du coup, ça permet de se rendre compte que c'est pas du tout comme les idées qu'on peut avoir éventuellement du Maroc.
Tout à fait. Mais vous parliez justement de l'automobile.
Oui.
Donc on a fait beaucoup de taxis.
Effectivement.
Donc effectivement, ils n'ont pas peur.
Ah,
voilà.
Non.
Ils n'ont pas peur.
Alors déjà,
n'ayez pas peur des ronds-points. Ils savent ce qu'ils font.
La ceinture de sécurité, c'est mal vu. Quand on essaie de mettre la ceinture, ils essaient de nous rassurer en disant non, pas de souci.
Alors ce qu'on a appris, c'est que la ceinture de sécurité est obligatoire pour les particuliers. Par contre, dans les taxis, il n'y a pas d'obligation. Derrière, il n'y a pas d'obligation. Donc ça, c'était le premier. Parce que nous, bien sûr, avec nos petits paradoxes où on a besoin de liberté et en même temps, on est les premiers à attacher sa ceinture. Donc pour dire qu'on est bien conditionné en France par rapport à nos lois. Et puis par rapport à... Alors bien évidemment, on n'entendait pas un discours contradictoire en termes de sécurité. Bien sûr que la ceinture protège les personnes et que malheureusement tous les incidents ont bien montré que sans la ceinture de sécurité il y aurait vraiment de plus gros on va dire de plus grosses conséquences à certains légers accidents. Mais à la même vitesse sans ceinture pourrait conduire malheureusement à une issue fatale. Donc on n'est pas du tout dans le message ne mettez plus de ceinture, soyons en désobéissance civile en France. Hein,
ah, de avec toute façon, vous aurez une amende.
Sécurité. Par contre, là-bas, c'était assez particulier, effectivement, puisque les taxis nous disent ce n'est pas obligatoire. Donc devant, on essayait de mettre la ceinture quand même, mais la ceinture ne fonctionne pas. Donc du coup, donc les taxis sont adorables. Par contre, contrairement à chez nous, on va le dire comme ça, quand on appelle un taxi ou quand on passe le bras... On voit un taxi passer, la personne s'arrête, on lui dit où on va, on rentre dans le taxi, on lui dit où on va, on paye notre course et voilà. Là-bas, quand vous arrêtez un taxi, vous lui dites « on a envie d'aller là ben, », selon si c'est sa route ou pas, il nous laisse sur le bas-côté. C'est-à-dire qu'il nous dit « ah non, c'est pas ma route ». Voilà. Et puis parfois, ils accueillent jusqu'à 3 personnes dans le véhicule, pas plus. Enfin, en tout cas, en fonction du gabarit du taxi. Et donc, la dernière petite anecdote étant que, avant une petite pause musicale, du coup, la dernière anecdote étant que, lorsque vous pouvez vous retrouver avec 2 personnes que vous ne connaissez absolument pas dans le même taxi que vous allez prendre, si c'est la route du taxi. Donc, c'est
tout
le taxi qui commande.
C'est ça, exactement.
Voilà, donc du coup, c'était... Mais en même temps, très, très chaleureux, dans le sens où on a eu vraiment de jolis accueils. On nous disait bienvenue. Donc, c'est vrai, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'il soit en Europe ou qu'il soit à l'étranger ou ailleurs, à l'international, on a nos appréhensions, on a nos préjugés. Donc, nous, on ne fait que bouger dès qu'on peut. Et on invite vraiment chacune et chacun à, dès que possible... bouger, aller appréhender d'autres espaces, d'autres univers. Ça permet aussi de comprendre aussi soit des phénomènes, soit de lutter contre, en tout cas, ce qui est sûr, de lutter contre les stéréotypes qui veulent que on va arriver chez des blédards ou des sauvages ou l'inverse, parce qu'ils pourraient aussi nous trouver très violents aussi dans notre démarche à vouloir être bien pensant, bien dans une forme de conduite, quoi.
Mais c'est vrai que du coup, on est plus sur de l'accueil chaleureux, comme vous dites, parce que tout simplement, en se promenant dans des villages un petit peu excentrés des villes, notamment Chefchaouen, la ville
on
bleue.
On en parlera justement juste après. Petite pause musicale, Chefchaouen, vraiment un village qui mérite d'être vu. Donc vous avez eu l'occasion d'y aller, de rencontrer des artisans également.
Tout à fait, ouais.
Donc je vous invite à écouter Lost Frequencies, Here With You.
When I saw you for the first time, days were running by, we were spinning high, I was lost in every
message. Collecting all your different pieces felt like a secret. When I saw you for the second time, pain slowly dries, love lost its pride. Be careful as you leave.
Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Radio Entre Deux Mers, donc 98.4, pour l'émission Lettres ouvertes aux enfants de la République. Je n'ai pas révisé mon texte. donc oui, on était en train de discuter de notre petite excursion sur le Maroc, et effectivement une anecdote m'est revenue. Donc pour vous, j'ai testé une petite balade à dos de chameau. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant, un grand animal, le chameau. Voilà, il faut bien se tenir, effectivement, il y a pas mal de petites consignes de sécurité à respecter pour éviter tout accident. Mais quelle vue.
Mais enfin, moi, je suis curieuse, parce que comment on monte, en fait, sur un chameau? Parce que j'ai pas vu cet épisode-là. Je sais qu'on a une vidéo, donc on vous la mettra sur le site de la radio RIG, en podcast, donc pas de souci. Mais du coup, comment ça se passe, en fait? On vous explique, le chamelier vous explique comment monter, comment...
Effectivement, oui, il est là de toute façon pour assurer notre sécurité et faire en sorte que ça se passe bien. Mais en fait, vous avez une espèce de... Vous avez deux anses sur le côté sur lesquelles on peut s'appuyer. Un peu comme à cheval finalement, et donc en fait il faut passer une jambe par-dessus, voilà. Donc non, ça se fait sans trop de douleur. Par contre, effectivement, quand l'animal se relève, c'est là où il faut bien se tenir, parce qu'on peut tomber. C'est quand même assez brutal. Donc voilà, j'ai eu peur au démarrage et à la fin de tomber, mais c'est bon. Une fois qu'on est dessus, on a une super vue, c'est assez génial. Bon, après c'est vrai qu'on était sur la plage de Tanger, c'était pas le Sahara, mais on était quand même bien dans le contexte.
Bon, parfait. En tout cas, on vous invite à aller voir cette belle ville très cosmopolite, puisque vous avez aussi vous avez les deux aspects. Vous parliez de l'architecture qui était assez... en tout cas, entre des bâtiments...
Ah, très changeante, oui. Après, moi,
voilà, c'est ça, entre des bâtiments, des vieux bâtiments. Mais vous avez la même chose au niveau de la population. Vous avez une jeunesse tangéroise qui est extrêmement dynamique, avec une culture aussi très développée. Et notamment, nous avons quelques danseurs de renom. Avec des invitations pareilles culturelles qui sont très très ancrées dans le présent, avec des thématiques très fortes, notamment un spectacle que nous avons pu auquel nous avons pu assister d'un des membres du séminaire, puisque je vous en parlerai tout à l'heure de ce séminaire, donc qui est aussi danseur et donc qui a travaillé sur la thématique avec sa femme qui est danseuse également, sur la thématique du harcèlement, le harcèlement de rue, le harcèlement dans les transports. Donc du coup une thématique qui est internationale, danse, hein, sur voilà, et donc du coup qui exprime avec le corps comme on peut exprimer sur des campagnes de publicité que nous avons en métropole, entre autres dans les trams, à l'université, un peu partout, donc du coup qui avec la culture comme moyen de transmission aussi, de prévention et de marquer cette violence qui peut se produire à un moment donné sur l'autre qui est harcelé. Donc cette matière a été prise en matière artistique et donc on a assisté à une performance, puisque je ne peux pas appeler ça autrement, hein, sur une bonne demi-heure, une belle performance d'un couple qui est un couple dans la vie et donc qui a voulu aussi montrer leur engagement dans la vie, dans la société tangéroise, et montrer aussi leur dynamisme, et en même temps dire voilà, il y a des choses qui sont à dénoncer. On a pris la matière culturelle pour pouvoir les dénoncer. Donc il y a vraiment ce côté bicéphale de traditionnel et d'une jeunesse qui souhaite percer à tous les niveaux et montrer aussi l'intérêt, ils aiment leur pays, et montrer aussi cette richesse à travers la culture. Voilà, donc c'était le petit focus là sur Tanger. Vous souhaitiez nous parler de votre parcours, donc vous avez testé d'autres choses, vous avez vu d'autres choses?
Oui, tout à fait, donc on a visité un village en fait dit le village bleu, Chef Chaouen. Donc en fait c'est une ville d'ailleurs, hein, même, parce que ça c'est quand même bien développé. C'est une ville de montagne qu'on trouve bien au sud du Maroc, en fait. Et ce village a la particularité d'avoir quasiment tous ses murs bleus, pour une raison dont un habitant nous a évoqué. En fait, la peinture bleue permet du coup de refroidir l'intérieur des murs, enfin des maisons, pardon. Parce qu'effectivement, bah, par période de grosse chaleur, voilà, on peut très facilement imaginer que ça devait être invivable. Et donc effectivement, cette peinture bleue un peu turquoise a pour particularité de garder les maisons au frais et les habitants par rebond. Et donc du coup, effectivement, à Chef Chaouen, on a eu l'occasion de visiter une tisserie de tapis et de djellaba aussi en plus. Mais surtout, la particularité qu'il y a en fait, pour la petite histoire, c'est qu'on visitait les rues et en fait, on est tombé sur une petite maison. Et en fait, il y avait l'habitant juste à la sortie de la maison et il nous a proposé gentiment, est-ce que vous voulez venir voir l'intérieur en fait ? Donc on a eu la chance de faire une visite d'un habitant qui nous a proposé gentiment de faire le tour de son domicile. Donc avec beaucoup de... Je saurais pas trop comment l'expliquer architecturalement parlant. C'est vrai que c'est plein de petites pièces qui donnent des fois sur des escaliers, des terrasses en plus. C'est des vrais labyrinthes en fait, mais c'est tout... Tous les murs sont bleus en fait, même en intérieur, donc c'est
quand
même assez.
Ouais,
tout à fait. Ouais. Okay. Alors on va avoir des nuances de bleu, mais c'est vraiment excellent. Enfin, c'est le paysage là-bas est magnifique. Le côté un peu montagne avec cette belle architecture de bâtiment. Toujours le petit côté aussi ruelle, un petit peu étroite, petit dédale, un labyrinthe. Voilà.
On peut penser à certaines îles grecques aussi. Hein,
oui, c'est vrai. Oui, effectivement.
La particularité des mythes de la Méditerranée.
Que Chef Chaouen justement était un peu sous protectorat espagnol pendant un temps.
Oui, tout à fait.
Et donc du coup, ce qui explique aussi que beaucoup parlent espagnol dans le coin, voilà, c'est resté culturellement. Et donc du coup, bah, cet habitant qui nous a fait visiter son domicile nous a amené après une coopérative de tisseurs berbères en fait, qui font donc des tapis magnifiques. Ils ont des pièces de collection, des fusils, des armes qui sont utilisées juste en termes de décoration, hein, donc recouvertes de céramique, voilà. On a des très beaux bijoux aussi, tout est fait à la main. Pour un petit ordre d'idée, un tapis, alors comment je pourrais vous dire ça ?
Le prix ou le...
Non, pas le prix, juste le temps en fait, oui, exactement, ouais. Parce qu'il y a deux sortes de tapis, il y a les tapis faits par les hommes et les tapis faits par les femmes. Donc ceux faits par les femmes sont beaucoup plus longs. Alors j'aurais plus les mesures exactes, mais c'était environ 3 mois pour faire des fois des tapis, mais magnifiques, hein, vraiment, avec des motifs qui ont des significations d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté aussi un peu spirituel.
Oui, parce que je crois que le vin là-bas...
Malgré le boulawan, non, on n'a pas pu en goûter, effectivement. On n'a pas eu cette chance. ou cette occasion du moins. Ouais. Mais on s'est rattrapé par contre sur la.
Et les hommes, donc combien de temps? Parce que les femmes, 3 mois pour faire un tapis.
Quand les hommes, c'est 1 mois. Mais c'est pas tout à fait la même utilité finalement. Les femmes, ça va être du tapis d'intérieur en fait, et les hommes vont faire des tapis plus courts pour ceux qui vont passer des nuits dans le désert ou autre en fait. C'est plus pour les mettre aussi des fois sur les chameaux.
Fin... C'est international, hein. C'est international. Hein. Les femmes toujours dans l'espace domestique. Bon.
Si je dois donner le point,
c'est un peu périmé. Hein. C'est un peu périmé. Hein. Mais par contre, 3 mois pour faire un tapis. Donc
exactement.
Ça, c'est
tout
important.
Est fait main en fait.
Donc, après, vous parliez des signes, bien sûr, parce qu'on est sur la communauté berbère, donc
voilà,
du coup,
exactement.
Avec aussi un ancrage traditionnel qu'ils souhaitent transmettre
tout
et
à
transmettre
fait.
À travers encore une fois la culture, parce que il n'y a pas qu'une seule culture, la culture artistique. Il y a aussi les cultures, les traditions,
les croyances,
voilà, et donc qui vont transparaître aussi dans chacune de leurs fabrications. Donc Chef Chaouen est connu à l'international, pourtant c'est un petit village, justement pour cette plus-value artisanale, puisque les tapis sont effectivement très ont une grande notoriété.
Ah, oui, oui.
Ainsi que les habits aussi traditionnels, le caftan ou la djellaba, le caftan étant plutôt pour les femmes. Voilà, un long habit, donc généralement qu'ils font aussi de leurs petites mains.
Oui.
Donc, il demande énormément de temps. Voilà. Donc, à l'instar, on a aussi tout ce qui est pas sur Chef Chaouen. On va plutôt aller sur Saouira ou des choses comme ça. On va être plutôt sur tout ce qui est épices. On parlait des épices tout à l'heure.
Ah, oui.
Donc, le safran, entre autres, l'huile d'argan. L'huile d'argan, bon, ben, tout le monde connaît. Donc, ça se fabrique au Maroc.
En parlant d'épices, du coup, c'est vrai que ça fait un très bon rebond parce qu'au Maroc, ils pratiquent beaucoup la médecine douce. Donc, ils ont plus de 3000 plantes à but médicinal, en fait. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Tout est transformé comme produit, mais ça reste du naturel. L'huile d'argan, on a appris qu'il y avait une différence. En fait, l'huile d'argan, on peut l'acheter en France sous forme classique, en fait. Mais l'huile d'argan se décline sous 3 formes. Il y a la partie qui va être plus pour le soin de la peau. Il y a une partie aussi culinaire, on peut s'en servir pour cuisiner. Et après, il y a une partie remède un peu plus mélangée avec le thé pour libérer justement un petit peu plus les bronches. Voilà.
Oui, tout à fait.
Mais c'est marrant justement de voir aussi cette déclinaison de produits, de voir que rien ne se perd, tout est utilisé. Et tout est transformé surtout à base de la nature finalement. C'est très culturel là-bas. Si la nature existe, c'est qu'il y a une raison. Et à chaque problème, son remède en fait. Chaque maladie ou chaque mot, son remède. Oui. Donc ça m'a laissé quand même assez admiratif.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va donner une petite recette hein, pour ceux qui perdent leurs cheveux ou qui perdent en vigueur, hein, puisqu'on ramène cette recette de là-bas. En fait, il faut acheter des graines de lin, donc de l'année. On a bien précisé qu'il fallait absolument que ce soit de cette date de l'année, donc récoltées dans l'année. Donc ensuite, vous les mettez dans une casserole avec de l'eau. Vous laissez le lin en fait se gorger d'eau.
D'accord.
Et ensuite, vous passez ça dans un chinois, enfin une passoire. Vous le passez et ça devient comme un gel en fait. Et ce gel-là, vous le mettez dans vos cheveux. Et vous le gardez quelques heures, soit toute la nuit. Hein, donc vous mettez un petit foulard ou pour protéger votre linge de maison. Et vous le laissez toute la nuit. Donc ça permet de régénérer aussi le cheveu, de le nourrir. Et c'est naturel. Voilà. Donc bon, on n'avait pas prévu de faire la petite chronique beauté. Mais en tout cas, pour amplifier ce que dit Pierre au travers de cette nature qui est utilisée autant pour la partie médicinale que pour la partie culinaire. Donc du coup,
et même décoratif. Hein, parce
et décoratif,
que,
bien sûr.
Oui. On a vu aussi du rouge à lèvres fait à base d'une espèce d'argile. Et en fait, en humidifiant ça, la pièce en argile, en fait, ça nous donne une espèce de teinte rouge qu'on peut s'appliquer du coup sur les lèvres, qui servent aussi à teindre les vêtements. Enfin voilà, c'est quand même une autre culture là-dessus, et c'est très très impressionnant de voir tout ce qui est fait à base de rien, entre guillemets, si je puis dire. Quoi. Enfin, tout a été bien pensé par la nature en les écoutant, donc c'est quand même bien d'avoir une vision différente de ce qui peut être fait. Justement aussi pour l'écologie, donc avec la nature finalement. Voilà.
Exactement. Donc du coup, ensuite, vous avez poussé jusqu'à Marrakech. Donc là, votre périple, Marrakech.
Oui.
Marrakech,
ça a été assez court comme visite, parce qu'on y a passé justement qu'une journée, même si on est arrivé un petit peu tard du coup, le soir, la veille au soir. Donc Marrakech, on a pu voir une grande médina. Donc c'est là où effectivement, on a vu le plus de commerce dans les rues. des grands labyrinthes à s'en perdre. D'ailleurs, on s'est perdu finalement, tout simplement. Et donc c'est là aussi où effectivement on a retrouvé ce côté vraiment très mélangé. On peut avoir de tout en fait sur les stands, c'est vraiment excellent. Et puis il faut y aller en mode, on se perd dedans, c'est le but, il faut découvrir de toute façon. Mais c'est là aussi on a pu être un peu confronté à la population, on a eu un autre regard par rapport à la population. C'est là où justement on a eu l'aspect renseignement égale pesos. Donc à la longue.
Dirham.
Oui, dirham pour le coup. Ouais.
Attention.
c'est vrai. Non, oui, dirham, tout à fait. Et donc effectivement, une personne nous suit pour indiquer le chemin, plus une deuxième, troisième. On se retrouve vite avec 10 personnes derrière nous en se disant waouh, mais qu'est-ce qu'ils font tous là ?
Donc, il y a un match de foot, peut-être.
Ah oui, et puis même s'il n'y a qu'une seule personne qui a aidé, tout le monde va vouloir un petit geste. Donc bon, il faut savoir dire non, effectivement, et ne pas se laisser des fois embarquer dans des affaires comme ça. Mais sinon, moi, j'ai adoré parce que, justement, toujours pour ce côté découverte, on se perd. Il n'y a aucune rue qui se ressemble. Et puis, il y a de tout aussi. Vraiment, il va y avoir des stands d'animaux. On voit beaucoup de chats aussi en liberté. Ils doivent faire au moins 1% de la population parce que il y en a vraiment partout. Et puis, ils font leur vie, ils sont vraiment bien intégrés au quotidien. Quoi, donc, alors, par contre, effectivement... à travers les rues de la Médina, le seul petit point qu'il pourrait y avoir de négatif, entre guillemets, c'est l'aspect où toutes les motos circulent aussi. Donc on se retrouve souvent à se pousser rapidement parce qu'une moto arrive et quand ils essaient de passer, ils passent. Voilà, donc entre moto et vélo qui traversent la Médina. Mais pour les épicuriens et épicuriennes qui nous écoutent, je tiens à donner quand même un grand point positif pour le Maroc, c'est l'aspect alimentaire. Même si on a mangé beaucoup de tagines et de brochettes à base de poulet, les tagines sont excellents. Ce petit plat mijoté avec l'huile de cuisson du poulet plus les fruits séchés et un petit peu de légumes à côté, ça donne un mélange explosif en bouche et il n'y en a pas un seul que je n'ai pas terminé quoi, finalement. Donc pour manger au Maroc, on a quelques adresses. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi, c'est dommage.
Non, mais... on ne les donnera pas parce qu'on part du principe qu'il faut aussi... On n'est pas un guide touristique. L'idée, c'était d'avoir testé des choses. Donc c'est le principe même de votre rubrique, de votre chronique.
On a pu assister aussi à une prière du coup sur la place centrale de Marrakech. Donc c'était assez impressionnant justement de voir que... en un instant, en fait, dès l'appel du muezzin, en fait, tout s'arrête un peu, tout se fige. Et puis, on voit un groupe de personnes qui commencent à arriver, posent leur tapis, tous, bien sûr, en direction de la Mecque. Et de voir que tout s'arrête pendant une dizaine de minutes, à peu près. Et après, ça reprend, naturellement. Mais pendant un petit temps, il y a un petit temps de calme, justement, où tout le monde s'affaire à la prière. Et après, c'est vrai que tous les touristes ne sont pas forcément respectueux. Il y en a qui faisaient du bruit ou autre. Nous, on a quand même été assez discrets. On regardait ça... de manière assez ébahie parce que voir une centaine de personnes d'un coup arrêter tout ce qu'elles font et puis se mettre à prier.
Ah, c'est pas un flash mob, hein.
Ah, c'est pas un flash mob, mais c'est vrai que c'est comparable en termes de surprise pour le coup. Parce que, effectivement, on a toujours les appels. Les prières, je crois que, si j'ai bien compté, si je dis pas de bêtises, on est à 5. On est à 5 par jour, donc ça commence dès 5h du matin jusqu'à 23h, je crois, ou 22h.
Au coucher du soleil.
Et les chants sont différents, donc c'est quand même assez intéressant d'entendre ça aussi un peu dans toute la ville. Voilà, ça...
C'est un autre rythme.
Ouais, exactement. Et,
dans tous les cas, on vous invite à aller découvrir ce pays. On n'a fait que l'effleurer. Bien évidemment, il y a d'autres choses à vivre. On y retournera d'ailleurs, ça fait partie... des points que vous disiez en préambule, que vous allez y retourner. On va aller aussi visiter d'autres espaces, dans d'autres contextes, puisque l'être ouverte aux enfants de la République, c'est aussi notre richesse et aller vers l'extérieur pour vous apporter des témoignages, des rencontres, des dispositifs aussi qui permettent la mobilité, puisque nous avions fait une émission sur la mobilité européenne, qui permettent aux jeunes, au travers d'un projet professionnel ou artistique ou culturel ou social, de pouvoir se déplacer dans les différents pays européens. Mais ces dispositifs existent également à l'international, notamment à travers le volontariat international, qui permet aussi d'aller découvrir un pays, d'apporter un soutien, de rencontrer des professionnels dans les différents champs que je vous citais, pour pouvoir construire un petit peu son projet et revenir force fort de ces rencontres et développer bien évidemment des compétences un peu plus par rapport à des thématiques précises. Mmh. Donc du coup, le Maroc était en un espace. Nous, effectivement, on a beaucoup bougé à l'Europe. On a bougé aussi dans les Dom-Tom et notamment Saint-Pierre et Miquelon. On va y retourner au mois de mai. Donc on fera une spéciale sur Saint-Pierre et Miquelon et l'engagement des femmes sur cette île pour l'insertion, pour le développement économique. Donc voilà, donc on sur ce dernier petit quart d'heure, donc nous sommes toujours au sein de la radio Entre deux mers au 98.4. Donc je vous invite à une dernière pause musicale et nous aborderons le séminaire, puisque là on a vu avec Pierre la partie
touriste,
j'ai testé, touriste, je me suis laissé surprendre et envahir et c'est très bien. C'est très bien. Donc je vous invite à écouter Yodelis Free. Voilà, donc c'était Yodelis Free, un chanteur français qu'on affectionne particulièrement, donc qui nous invite toujours à réfléchir et à ouvrir Open Your Mind, donc ouvrir votre esprit. Je pense que c'est d'actualité puisqu'on vient de faire une longue chronique sur le Maroc. Sur ce dernier petit quart d'heure, donc nous sommes toujours à l'Aréole auprès de nos collègues de la radio Entre deux mers. Donc nous sommes toujours à l'Aréole. On vous invite bien évidemment à venir à cette foire exposition et venir nous rencontrer. Nous sommes dans le pavillon des exposants. Donc du coup, pour ce petit dernier quart d'heure, je voulais vous parler de justement parler du Maroc. Donc moi, j'étais plutôt dans la partie séminaire, puisque sous le joug de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Donc c'est un dispositif qui permet, là je suis en formation, donc pour tout ce qui est ouverture à l'international. Et donc nous sommes un groupe de différents niveaux, de différentes fonctions, de différentes missions intergénérationnelles. Donc qui souhaitons continuer à apprendre et à ouvrir à l'international les rencontres de jeunes et de moins jeunes autour de projets, soit projets sociaux, pour ma part et pour la part de l'association, tout est possible, donc plutôt culturel, artistique et social, donc l'inclusion sociale par la culture, pour être plus précis. Et donc avec l'OFAGE, on a cette formation qui est sur 3 semaines. Donc nous avons vécu une première semaine à Hambourg en juin, puisque l'Office franco-allemand je vais vous raconter un petit peu qui est cet office, en tout cas à quoi il sert et un petit peu d'histoire rapide. Et donc on a fait une première semaine, ça se décline sur 3 semaines, cette formation qui permet d'avoir une certification d'animation socio-culturelle à l'international de mobilité de jeunes. Donc une première semaine à Hambourg, une seconde là qui a été vécue à Tanger avec les partenaires organisés par l'association. L'accueil a été fait par l'association Tingis, donc au Maroc, mais au niveau des partenaires, on va dire, financiers et organisationnels, c'est une association algérienne, oranaise plus précisément. D'accord. Qui s'appelle Bel Horizon, donc est une association qui milite pour le patrimoine et l'échange entre différents pays. Donc voilà, et bien évidemment Doc Europe à Hambourg en Allemagne. Donc l'Office franco de la jeunesse, franco-allemand de la jeunesse, est né dans les années 60, en pleine période de guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, où pendant plus d'une vingtaine d'années, une grosse crispation entre nos deux pays, la France et l'Allemagne, suite à cette Seconde Guerre mondiale, bien évidemment à juste raison d'une part et à pas juste raison d'autre part. Donc ces deux pays se sont dit comment on fait pour reconstruire ensemble une amitié, puisque il ne faut pas tout mélanger, qu'effectivement tous ceux qui ont participé à la guerre ne sont pas que ceux qui ont envahi. Ce sont aussi ceux et celles qui se sont battus pour préserver, pour protéger. Et donc, du coup, comment on crée cette amitié? Donc, dans les années 60, donc, c'était encore le général de Gaulle, donc il s'est mis en lien avec Eisenhower pour pouvoir essayer de construire une autre passerelle entre les deux pays. Nous sommes aussi au début de la réflexion européenne, donc toute cette construction européenne que nous avons, que nous connaissons jusqu'à présent et qui nous permet d'avoir des dispositifs de mobilité. Cet office est antérieur à l'organisation des mobilités européennes. Donc l'office avait pour objectif de permettre des échanges entre les Français et les Allemands, d'échanger sur l'histoire et de reconstruire une fraternité ou une sororité, et en tout cas une espèce de solidarité, donc qui a créé ce socle fort qui a démarré les prémices de notre Europe, de celle qu'on connaît. Donc avec les aléas, bien évidemment, politiques que nous connaissons aujourd'hui, avec le départ de l'Angleterre et puis l'Italie qui commence à poser la même question. Donc en tout état de cause, ces dispositifs-là, ces constructions, ces rencontres sont bien pour un premier objectif, mieux se connaître pour ne pas avoir à de nouveau répéter l'histoire. Donc se retaper dessus, j'ai envie de dire comme ça, de manière mais peut-être enfantine, mais en tout cas, qui peuvent avoir encore une fois des causes dramatiques. Donc l'idée était de construire cette amitié entre les pays et puis d'inviter les pays tiers au fur et à mesure de leur programme. Et donc le Maghreb a fait partie de ces pays tiers, notamment avec la montée de la radicalisation dans différents pays. Et il ne faut pas oublier que cet extrémisme-là a aussi augmenté dans les pays dits maghrébins. Donc du coup aussi le Maghreb a lutté contre l'extrémisme, donc ça permet aussi un rapprochement des dispositifs, des personnes, des ressources, et d'ouvrir pour permettre aux jeunes de circuler, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir opérer un esprit critique et en conscience. Et les outils culturels que nous utilisons, ça va être des outils culturels que nous allons utiliser, donc la mobilité, la rencontre, mais également les luttes, tous les outils de lutte contre les stéréotypes. Donc le fait de rencontrer l'autre, c'est aussi comprendre ce qu'il vit dans son contexte. Et puis aussi, ensuite, les outils qu'on va développer dans ces mobilités. Donc pour nous, pour l'association, c'est la culture. Donc effectivement, travailler des artistes, ce que nous avons commencé à faire aussi dans différents pays, notamment avec les circassiens, donc sur un gros projet. Et donc là, continuer à rencontrer d'autres personnes. Donc la formation et le dispositif est intéressant puisqu'il nous permet d'une part d'être formés et en même temps de pouvoir monter des projets avec différentes structures au travers. Donc ce sera toujours la France ou l'Allemagne dans un premier temps qui doivent monter, qui sont porteurs. mais nous espérons à terme que les pays tiers pourront aussi déposer des demandes puisqu'ils sont partie prenante et qu'ils nous accueillent, qu'ils développent aussi des outils que nous partageons et que nous transmettons.
C'est-à-dire que la France et l'Allemagne, du coup, sont le socle commun de cet organisme-là. Donc, c'est d'abord par eux qu'il faut passer, c'est ça, si on veut essayer de mettre en place un partenariat avec un pays.
Exactement. Donc, par exemple, si le Maroc décide de faire un projet, il devra s'adresser à un partenaire soit français, soit allemand, la structure française, soit la structure allemande, pourra déposer, puisqu'il y a deux bureaux au FAGE, un à Paris, un à Berlin.
D'accord.
Et donc, du coup, chacun peut déposer, mais malheureusement, aujourd'hui, les pays tiers ne peuvent toujours pas déposer leur demande. Donc, on espère qu'il y aura une évolution parce que ces projets de rencontre sont des projets de co-construction.
Ah, c'est très
intéressant. Donc, il ne faut pas se placer dans un système néo. Je vais tenter le terme, même s'il n'est pas joli, de néocolonialisme, où on va se dire bah, c'est nous qui portons et que les pays tiers ne sont là qu'en plus-value ou comme support à notre déploiement.
Ce serait contrevenir à la philosophie quand même originelle du produit,
exactement,
qui est quand même l'échange et la découverte de l'autre. Donc,
exactement. Exactement. Donc on est vraiment là-dessus et donc du coup ce partage fait qu'on doit être au même niveau les uns avec les autres. Donc si on parle de co-construction, comme on a parlé de la co-construction européenne, elle doit être inscrite comme ça, même si nous subissons différentes formes, que l'Europe est en train de se modifier. N'oublions pas que c'est par l'échange et par les rencontres qu'on peut modifier les mentalités et peut-être essayer de créer, alors peut-être avec utopie, le principe du vivre ensemble. Voilà, on arrive pratiquement au terme de notre émission Lettres ouvertes aux enfants de la République. Nous sommes toujours aussi ravis de se déplacer sur le territoire. Nous sommes ravis d'être à la Réole aujourd'hui auprès de la radio Entre-deux-Mers, nos collègues de la radio Entre-deux-Mers. Et on vous invite à venir vraiment, vraiment, vraiment. C'est très, très dynamique et c'est jusqu'à dimanche. Nous, on se retrouve justement dimanche pour notre émission quotidienne à Blancfort sur Radio RIG. Merci à vous toutes, merci à vous tous.
Merci beaucoup, au revoir.